nettoyant les cadavres des vaches. 99% de la population de vautours a ainsi disparu et sans eux, les charognes ont prospéré, les charognes et leur cortège de maladies. Conséquence, 500 000 décès chez les humains, une surmortalité de 4%.
C'est Nanta Nature, signé Florent Guignard. À suivre dans une minute, l'actualité africaine.
L'Afrique en marche.
Frédéric Gara.
L'Afrique en marche, une Afrique positive qui prend toute sa place sur RFI. Chaque dimanche, on vous emmène à la rencontre d'un porteur de projet, d'une entreprise, d'une association qui fait avancer le continent. Reportages, témoignages, récits d'initiatives gagnantes. Chaque pays a ses talents.
L'Afrique en marche, tous les dimanches à 5h47, 7h51 et 12h45 TU sur RFI.
Together Productions, World Tour Records, Jaspire Prod et RFI Talent présentent Lovana en concert. Découvrez la trance afro-électro du trio franco-malgache sur la scène du festival. Pas trop loin de la scène, le 8 juillet à 19h30 à Nemours en Seine-et-Marne. Plus d'infos sur patroloindelascène.fr.
Il est 5h30 à Kinshasa, 4h30 en temps universel. C'est le début d'une demi-heure d'actualité africaine. Bonjour Xavier Besson.
Bonjour Marion, bonjour à tous.
À la une ce matin, les attentes de l'opposition congolaise.
Des opposants qui convergent en ce moment vers le Burundi, invités par le président burundais pour des consultations. Et des opposants qui espèrent que cet allié de Félix Tshisekedi entendra leurs arguments contre une réforme de la Constitution et pour un dialogue. Dans ce journal également, la Centrafrique et la situation à Amdafok, ville à la frontière avec le Soudan, attaquée au début de la semaine par des groupes armés. Le Cameroun, où le réseau des droits de l'homme en Afrique centrale demande des éclaircissements après l'arrestation et la mise en détention cette semaine du militant Jacques Bertrand Mans. Et puis le football, journal de la Coupe du Monde dans une dizaine de minutes. Alors qu'hier, le Maroc s'est qualifié pour les quarts de finale. Victoire 3-0 des Marocains contre le Canada. Des Marocains dont le prochain adversaire jeudi sera la France. C'est au Burundi, mais c'est bien de la République démocratique du Congo qu'il sera question. À l'invitation du président burundais Evariste Ndayishimiye, également président en exercice de l'Union africaine, des représentants de l'opposition congolaise sont en train d'arriver à Gitega. Le chef de l'État burundais les a conviés pour des consultations demain et ils ont bien des choses à lui dire sur l'état politique de leur pays. Correspondance de Pascal Moulégoua.
Martin Fayulu fera lui-même les déplacements. L'opposant a quitté Kinshasa samedi et est arrivé à Bujumbura après une escale à Addis Abeba. Il dit vouloir écouter les présidents burundais, mais surtout rappeler les lignes rouges de l'opposition. Pas de troisième mandat pour Félix Tshisekedi et la convocation urgente d'un dialogue national inclusif pour sortir de la crise politique et sécuritaire. Une position qu'il défend sans concession depuis plus d'un an. Dans son cahier de charges figure aussi la libération de Benjamin Babunga Watuna. L'humanitaire et blogueur congolais est détenu à Bujumbura depuis le 27 mai. Connu pour ses analyses critiques de la crise congolaise, il travaille pour une ONG au moment de son arrestation. Même attente chez Delice Essanga qui espère que l'initiative burundaise ne viendra pas s'ajouter aux médiations déjà engagées, notamment celles de Luanda et de l'Union africaine. Selon lui, la multiplication des processus brouille les efforts de sortie de crise. Il compte sur Evariste Ndayishimiye pour convaincre Félix Tshisekedi de privilégier les dialogues. Les évêques catholiques et les pasteurs protestants défendent eux aussi un dialogue national dans le cadre de leur pacte social pour la paix et les vivre ensemble. Allié de Kinshasa face au Rwanda et à l'AFC M23, le président burundais apparaît aujourd'hui comme un interlocuteur de taille. Pascal Moulégoua, Kinshasa, RFI.
À la République démocratique du Congo, dans la région du Kasaï, les autorités locales du territoire d'Ilebo donnent un bilan de 20 morts et des dizaines de disparus, chiffre provisoire, après le naufrage d'une baleinière dans la nuit de mercredi à jeudi. 80 autres passagers ont pu être secourus à la jonction des rivières Kasaï et Sankuru. D'après des sources locales et officielles jointes par RFI, l'embarcation a quitté le port de nuit et les premiers éléments pointent vers une surcharge du bateau. Le député provincial du Kasaï central, Pierre Sosten Kambindi, appelle à de vrais contrôles.
Selon les informations obtenues du commissariat fluvial d'Ilebo, l'embarcation était vétuste et elle était surchargée. Les chiffres détenus par les services d'immigration sont très loin inférieurs aux chiffres réels des personnes qui étaient embarquées. Comment est-ce que les services d'immigration peuvent présenter un manifeste avec 30 passagers alors que déjà, il y a 80 rescapés. Donc, il faut qu'il y ait des sanctions de part et d'autre. On a laissé une embarcation surchargée et ce qui est arrivé, donc il faudrait qu'on puisse renforcer des mesures de sécurité de part et d'autre. Les services de l'État doivent aussi être regardants par rapport au nombre de personnes qui embarquent et au tonnage des embarcations. Les commissariats fluviaux d'Ilebo ne disposent pas des matériels nécessaires pour contrôler la navigation. Les armateurs peuvent partir quand ils veulent. Donc, il faut certainement que le gouvernement central prenne à cœur cette situation pour préserver les vies humaines dans le futur.
Pierre Sosten Kambidi, député provincial dans le Kassai central en République démocratique du Congo, joint par Magali Lagrange. RFI, 5h34 à Bangui et à Amdafok, la Centrafrique. Et cette question, qui contrôle cette ville à la frontière avec le Soudan ? Localité prise pour cible mardi par une coalition de groupes armés baptisée ASP, Alliance du sursaut patriotique. Des hommes qui disent toujours être présents en ville, ce que disent aussi des habitants de la localité. Alors que le gouvernement centrafricain dit les avoir repoussés avec le soutien de ses alliés russes. Sur place, en tout cas, la vie s'est arrêtée. Correspondance de Rolf-Steph Domialeux.
Ce samedi, la ville d'Amdafok est relativement calme, mais des tirs sporadiques continuent d'être entendus dans les quartiers selon de nombreuses sources. Quelques cas d'enlèvement ont été signalés. Beaucoup ont trouvé refuge dans la bourse, comme le témoigne cet habitant.
Ah, Tourougou.
Toutes les activités sont bloquées, les gens ne peuvent pas aller au champ, ni sortir, ni aller au marché. Tout le monde a peur, beaucoup se sont réfugiés dans la base de l'ONU.
Le président de la République, Faustin Archange Touadéra, condamne avec fermeté cette attaque et appelle à l'unité de tous les Centrafricains face à ces rebelles. Selon lui, rien ne justifie le recours aux armes pour incendier des maisons, tuer des civils et piller la ville. À en croire cette habitante jointe au téléphone, la plupart de ces hommes armés sont des mercenaires.
Nous vivons dans l'insécurité, beaucoup d'entre eux ne parlent pas la langue locale. Leur manière de se comporter et d'agir est différente de la nôtre. Ils ont pillé les commerces ainsi que les bâtiments administratifs. Pour l'instant, la ville est morte.
Selon plusieurs observateurs centrafricains, ces rebelles auraient bénéficié du soutien des puissances étrangères dans le Tchad pour déstabiliser le pays. Dans un communiqué publié le 3 juillet, le gouvernement tchadien dément fermement ces accusations et les qualifie de campagne de désinformation. Le Tchad réaffirme qu'il n'a jamais été et ne sera jamais partie prenante à un tel projet. Rolf Steve Domialeu, Bangui, RFI.
Des attaques que le gouvernement dit avoir repoussées, notamment grâce à ses alliés russes. C'est aussi le cas au Mali, où la journée d'hier a vu le FLA, c'est-à-dire les indépendantistes du Nord Mali et les djihadistes du JNIM, viser plusieurs localités, notamment du nord et du centre du pays, ainsi qu'une prison à quelques dizaines de kilomètres au sud de Bamako. C'est à Anéfis que les combats ont été les plus importants. Anéfis, à une centaine de kilomètres de Kidal, dont les deux groupes armés avaient pris le contrôle au mois d'avril. Hier soir, les Russes d'Africa Corps, alliés de l'armée malienne, étaient toujours retranchés dans le camp militaire de cette ville d'Anéfis. Au Cameroun, le REDAC, le réseau des droits de l'homme en Afrique centrale, demande une enquête indépendante au sujet de ce qui arrive en ce moment au militant politique Jacques Bertrand Mans, arrêté et placé en détention après une altercation avec un policier dans la ville de Douala. Ses avocats dénoncent une arrestation arbitraire et attendent maintenant une décision sur une libération provisoire. Richard Onanena.
Trois chefs d'accusation ont été retenus contre l'activiste, violence sur fonctionnaires, entrave au fonctionnement d'un service public et diffamation sur les réseaux sociaux. Dans la vidéo qui a valu son arrestation, au cours d'une dénonciation, Jacques Bertrand Mans s'en prend à un policier à Youpoua, un quartier de Douala. Ces derniers mois, l'activiste a multiplié les sorties musclées au cours desquelles il n'hésite pas à filmer et à publier des agents de l'État. Les avocats, constitués pour sa défense, demandent la libération immédiate et sans condition de l'activiste, ainsi que la restitution de son téléphone en l'état. Par ailleurs, le REDAC et sa coalition pays Cameroun exigent que soit assurée la protection et la sécurité de l'activiste Jacques Bertrand Mans et de ses proches et tiendront pour responsable au gouvernement en cas de disparition forcée. Au tribunal de Modanjol, lors de la première audience, un conseil composé de 4 avocats s'est constitué pour sa défense. J'ai discuté avec la doyenne Maître Alice Combe avant l'audience. Une stratégie a été retenue pour la défense de Jacques Bertrand Mans, a expliqué Maître Hassan Michael Kumba, l'un des avocats qui défend l'activiste. La défense a déposé une demande de mise en liberté sous caution. L'audience est renvoyée au 10 juillet pour les réquisitions du parquet. Richard Onanena, Yaoundé, RFI.
En Guinée, cela fait bientôt 2 ans qu'on est sans nouvelles de Fonike Menge et Mamadou Biloba, deux militants de la société civile, emmenés début juillet 2024 par des gendarmes et des éléments des forces spéciales guinéennes à la veille d'un appel à manifester, notamment contre la vie chère, les fermetures de médias et le retour à l'ordre constitutionnel. Hier, c'est à Paris que leurs proches ont tenu une conférence de presse déplorant l'absence d'enquête et appelant les autorités guinéennes à faire toute la lumière sur leur sort. Vous les entendrez dans le prochain Journal Afrique dans une heure sur RFI. Et puis on commence à parler football avant le journal de la Coupe du Monde dans un peu plus d'une minute. Hier, pour le Maroc, tout s'est joué en deuxième mi-temps. Les Lions de l'Atlas battent le Canada et se qualifient pour les quarts de finale. Sur place, Cédric De Oliveira.
Comme des milliers de Marocains, Abdel n'a pas hésité à faire le déplacement jusqu'à Houston. Parisien, il a franchi un océan et 8000 km pour admirer son équipe de cœur. Mais ce qu'il a vu ne l'a pas étonné.
On prouve au monde entier que le Maroc est une équipe top mondiale. Voilà, aujourd'hui, venir en quart de finale pour le Maroc, c'est un devoir. Donc, c'est logique.
Déjà demi-finaliste de la précédente Coupe du Monde, les Lions de l'Atlas ont été patients face au Canada avant une deuxième période à sens unique. 3 buts, dont 2 pour Asdine Ounahi, qui préfère mettre en avant l'état d'esprit de son équipe.
Nous, on est un groupe ensemble. On veut tous la même chose. On a tous le même objectif. Que c'est moi qui a marqué ou quelqu'un d'autre, on est tous contents. Et je suis fier de cette génération, je suis fier de ce groupe.
Contre de valeureux Canadiens, le Maroc a donc tenu son rang pour le plus grand plaisir de son sélectionneur Mohamed Ouabi.
Très heureux, très vraiment très content parce que c'est des matchs de Coupe du Monde, donc je suis très content. On n'a pas pris de but, on en a mis 3. On sait qu'il y aura des moments difficiles.
Et cela risque d'arriver en quart de finale où l'adversité sera tout autre puisque les Marocains retrouveront la France, favorite du tournoi, pour une revanche de leur duel il y a 4 ans au Qatar. Cédric De Oliveira, Houston, RFI.
Et on en parle dans un instant dans le journal de la Coupe du Monde à Houston. Il est 23h40, 6h40 ici à Paris.
Afrique Matin sur RFI. Xavier Besson.
À suivre dans Afrique Matin, elle patrouille pour assurer la protection de la faune sauvage et aussi pour régler les conflits. Le deuxième volet de nos reportages dans l'est du Kenya, dans le parc national de Taita. Notre envoyé spécial a suivi la Team Lioness, un groupe de rangers 100% féminin. À suivre aussi vos rendez-vous du dimanche, les chroniques Y'a quoi sur tes réseaux et 100% création. Et tout de suite donc le journal de la Coupe du Monde.
Le journal de la Coupe du Monde.
Bonjour Pauline Guillou.
Bonjour tout le monde.
Dans la douleur, l'équipe de France s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du Monde en dominant le Paraguay 1-0 à Philadelphie.
Et oui, ça ressemblait presque à un combat de boxe, de catch, de lutte, ce que vous voulez, hein, sur les pelouses de Philadelphie. Une température qui frôlait les 40 degrés, une place en quart de finale qui se jouait. Et c'est le capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé, qui a libéré son équipe en marquant sur pénalty à la 70e minute de jeu, déjouant le piège tendu par les Paraguayens qui ont surtout tenté de faire disjoncter les Français sans succès. Écoutez.
On savait quel type de match on allait avoir, mais je pense qu'aujourd'hui c'est très bien. Le match qu'on a eu, comment on l'a joué. On a montré qu'on n'était pas seulement une équipe qui savait jouer en football offensif. S'il faut mettre les mains dans la merde, on va mettre les mains dans la merde. Désolé de l'expression. On n'a pas de problème avec ça. Ils pensaient qu'on allait venir jouer en smoking, qu'on allait juste venir faire des belles actions des 1-2. Nous, on sait faire le sale football aussi. Et on l'a fait aujourd'hui, on a gagné. Et même dans ça, on a été meilleurs qu'eux. Maintenant, on passe à une étape supplémentaire pour récupérer et se concentrer sur le Maroc.
Kylian Mbappé donc en quart de finale, les Bleus retrouvent le Maroc, remake de la demi-finale du Mondial 2022 au Qatar.
Car les Lions de l'Atlas, de leur côté, se sont aussi qualifiés hier.
Oui, victoire sans appel contre le Canada, 3-0, un match qui avait lieu à Houston, au Texas. Un huitième de finale qu'ils ont eu un peu de mal à démarrer, hein, ces Lions de l'Atlas, avant d'assommer le Canada avec notamment un doublé d'Asdine Ounahi pour l'attaquant James Dean Talbi. Cette victoire est méritée, mais les Marocains ne veulent pas s'arrêter là, écoutez.
Oui, bien sûr, on voulait avoir le ballon, on a vu qu'on a les qualités de jouer contre chaque équipe et avoir le ballon, et techniquement on est meilleur. Première mi-temps c'était un peu difficile à garder le ballon, ils mettaient beaucoup d'intensité le Canada, et voilà, on est revenu à la deuxième mi-temps pour montrer un peu plus d'intensité, et on a réussi à garder le ballon et voilà, être efficace devant le but. Ça nous fait plaisir, mais c'est pas notre fin pour nous, on veut viser encore plus haut, voilà, on l'a démontré il y a 4 ans, et là on est encore là, donc c'est que le travail paye.
Et voilà, France-Maroc, la prochaine affiche pour ces quarts de finale, ça va se jouer au sud de Boston jeudi prochain. On vous annonce d'ores et déjà que c'est un choc qui sera à suivre en intégralité sur nos antennes africaines.
Et ce soir, les huitièmes de finale continuent.
De très belles affiches au programme, Brésil-Norvège avec de la pression du côté de la Seleção qui s'attaque un sacré morceau. Les quintuples vainqueurs du mondial ont depuis 1990 toujours atteint les quarts de finale du tournoi au moins jusqu'en 1990, pardon. Ils étaient sortis en huitième de finale, justement. Et ce soir, face à la Norvège d'Erling Haaland, il va y avoir du travail. Le match sera à suivre à partir de 20h en temps universel. Et l'autre match de la soirée, ce sera entre le Mexique et l'Angleterre. Là aussi, c'est une bien belle affiche.
Et on va prendre aussi, Pauline, quelques nouvelles des pays qui ont quitté le tournoi.
Oui, la Tunisie qui se sépare déjà de son sélectionneur Hervé Renard, qui décrit une expérience inoubliable sur ses réseaux sociaux. Inoubliable, mais très courte expérience. Deux matchs seulement pour Hervé Renard, qui était arrivé en pleine Coupe du Monde sur le banc des Aigles de Carthage. Il avait été nommé un peu en catastrophe pour succéder à Sabri Lamouchi, démis de ses fonctions au lendemain de la défaite de la Tunisie contre la Suède, 5-1.
Hervé Renard qui était sans doute un peu ironique. On termine avec une image des requins bleus capverdiens éliminés de leur première Coupe du Monde par l'Argentine, championne en titre.
Et oui, quelques nouvelles de la sélection héroïque du Cap Vert, écoutez. Ateja, Cabo Verde, à tout à l'heure, disent les joueurs en direct de l'avion. Les requins bleus sont en route pour Praia, où les attendent, on l'imagine, de nombreux supporters et toute une journée de festivités, un défilé dans les rues de la capitale avant d'être reçus au palais présidentiel avec le très joli hasard du calendrier. Nous sommes le 5 juillet, c'est le jour de l'indépendance du Cap Vert et donc la fête nationale.
Merci Pauline Guillou, c'était le journal de la Coupe du Monde.
Jusqu'au 19 juillet, vivez la Coupe du Monde de la FIFA sur RFI.
Un reportage au Kenya dans une minute. Avant cela, l'essentiel de l'actualité internationale de ce dimanche 5 juillet, avec la grande journée de célébration des 250 ans de l'indépendance des États-Unis. Journée qui devait culminer avec un long discours de Donald Trump et qui a été perturbée à la fois par la canicule et les files des défilés ont été annulés, mais aussi par la tempête, risque météo qui a obligé les autorités a évacué l'immense esplanade du National Mall à Washington où devaient se tenir les célébrations. Le président Trump a tout de même fait son discours avec un peu de retard. Ce 4 juillet, jour de l'indépendance américaine, le président russe Vladimir Poutine s'est entretenu par téléphone avec son homologue américain. Les deux dirigeants ont évoqué la situation en Ukraine avant le sommet de l'OTAN à Ankara. Il a aussi été question du conflit avec l'Iran au Moyen-Orient. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a également annoncé s'être entretenu par téléphone avec Donald Trump. Et à propos de l'Iran, deuxième jour des funérailles nationales de l'ayatollah Khamenei. Le fils et successeur de Khamenei, qui est également un ayatollah, Mojtaba Khamenei, n'est toujours pas apparu en public depuis les bombardements israélo-américains. Et selon un média d'État iranien, des représentants du Hezbollah et du Hamas ont rencontré hier le chef de la diplomatie iranienne à Téhéran. C'est une opportunité d'emploi relativement prestigieux, mais aussi un pied de nez aux stéréotypes de genre. Deuxième volet, ce matin de notre week-end de reportage dans le sud-est du Kenya, dans une région de parcs nationaux, où vous l'avez entendu hier, les animaux sauvages circulent librement, ce qui crée parfois des conflits avec les communautés locales. Ce sont les rangers qui sont chargés de régler ces conflits. Et près du parc d'Amboseli, près de la frontière avec la Tanzanie, notre envoyé spécial Alban Tiroir a suivi le travail d'une équipe de rangers 100% féminine.
Le jour se lève à peine dans les alentours d'Amboseli. L'équipe de Rangers femmes enchaîne déjà les échauffements. La team Lioness, comme elle se surnomme, s'apprête à partir. Purity Lakara donne les dernières instructions.
Nous allons partir faire nos patrouilles quotidiennes. Une fois sur le terrain, continuons à collaborer comme d'habitude. Le respect est essentiel, d'accord ?
Les Rangers patrouillent sur plusieurs kilomètres pour assurer la protection de la faune sauvage et recenser les mouvements des animaux. Elles se déplacent aussi dans les communautés pour sensibiliser à la conservation ou régler des conflits. Un travail qui n'est pas sans danger, rappelle Purity.
Nous ne sommes pas armés. Or, il nous arrive de croiser des animaux dangereux. Par exemple, lorsque les éléphants sont en période de rut, ils sont souvent très agressifs. Mais nous avons suivi une formation de rangers et certaines ont également reçu une formation paramilitaire. Nous avons donc appris à nous protéger et à nous défendre.
À 28 ans, Purity Lakara fait partie des premières femmes de sa communauté à être devenue ranger.
Au début, c'était difficile parce que c'est une communauté où les hommes occupent traditionnellement la place dominante. Briser les stéréotypes n'a pas été facile. Pour eux, accepter qu'une femme quitte la maison, laisse les tâches ménagères et les enfants pour partir 3 semaines sans rentrer alors qu'elle est mariée, qu'elle a des enfants, c'était inconcevable. Mais nous avons été déployés et avons commencé à travailler. Nos rapports étaient excellents et la communauté a progressivement commencé à nous accepter.
Aujourd'hui, elles sont 17 Rangers femmes sur les quelques 90 de cette région et Purity s'en félicite. De plus en plus de jeunes filles veulent rejoindre la team Lioness. Pour ces communautés pastorales, Maasai, c'est aussi une opportunité d'emploi. Evelyn Moynihan est là depuis 2021.
Cela permet à une personne de contribuer au revenu du foyer. Comme moi, par exemple, ma famille sait qu'elle va recevoir quelque chose à la fin du mois. Ils sont très fiers de moi. Même les jeunes filles de nos communautés disent désormais « Nous aimerions être comme Dorcas, comme Evelyn ». Elles voient que les choses changent.
À peine 4 ans, sa fille rêve déjà d'être une future ranger, comme sa maman. Albin Tiroir, de retour dans Mbosseli, RFI.
À Mbosseli, au Kenya, il est 7h49. Ici à Paris, l'heure de Y'a quoi sur tes réseaux ? Et ce dimanche, Y'a quoi sur les réseaux ? De Lola à Nantes, en France. Il y a énormément de séries de fiction des formats courts, 1 ou 2 minutes, conçues pour les écrans de téléphone, que la jeune Française regarde directement sur TikTok ou sur Instagram. C'est une chronique signée Anna Le Serre.
Au lycée, j'avais maths du lundi au mercredi, de 8h à 10h, et je devais faire 200 mètres à pied du bus à la classe. Et ça me faisait tellement peur les maths que je devais m'arrêter tous les 3 pas pour pas rendre mon petit déjeuner sur le bas-côté. Du coup, j'ai arrêté de prendre des petits déjeuners.
La voix que vous entendez, c'est celle de Morgane, créatrice de la compote aux poissons, une série née sur les réseaux sociaux dont notre nantaise Lola ne rate aucun épisode.
C'est un format court et il y a un univers vraiment hyper particulier et assez unique. Et en fait, ça leur a permis d'exploser. Et là, ils ont ouvert une cagnotte pour la saison 2 qu'ils veulent financer avec des épisodes un peu plus longs. Et je trouve ça trop fort de voir comment les gens s'emparent des réseaux sociaux comme outil.
Sur le téléphone de Lola, ces séries courtes occupent désormais une place importante. Ce sont des fictions pensées pour être regardées dans le bus, dans le tram ou entre deux cours sur son téléphone.
Et je regarde pas de films sur mon téléphone. Par contre, du format court, il est vraiment réfléchi pour tenir dans la poche. Ils arrivent à transmettre une émotion sur un tout petit écran parce que l'écriture est hyper maligne, parce que les plans sont très beaux, même filmés au téléphone.
Sur le fil d'actualité de Lola, les formats sont multiples, mais ils ont souvent un point commun. Ils racontent les petites histoires de la vie de tous les jours. Par exemple, une discussion sur la meilleure façon de cuire les frites dans la série en stop motion chez Cathy.
Bah oui, on a déjà fait des frites avec maman. Ben on les fait au four, quoi.
Comment ça, des frites au four ? Et la friteuse que je vous avais offerte à ta mère ? Autant faire des frites à l'eau, alors, c'est quoi ça ?
Ou encore un rendez-vous amoureux un peu maladroit dans Fenêtre sur rue.
J'ai jamais fait l'amour sur mon premier date. Il a dit qu'il allait m'aider, c'est mon pote.
Salut.
Salut. C'est un peu triste, non ? Tu veux pas faire tes expériences tout seul ?
Ben, si j'avais fait tout seul, on aurait fait un Mario Kart.
Des anecdotes, des maladresses, des histoires d'amitié ou d'amour. Ce sont des récits qui ressemblent souvent aux vies de leurs spectateurs.
C'est marrant parce que ça reprend des codes vraiment réseaux sociaux et internet dans l'écriture. Et en même temps, il y a une technique qui est professionnelle.
Et parfois, ces petites histoires rencontrent un immense succès. Le meilleur exemple, c'est Samuel, la série d'animation créée par Émilie Tronche autour du quotidien d'un garçon de 10 ans. D'abord développée de manière indépendante, puis diffusée sur les réseaux sociaux, la série a ensuite été reprise par la chaîne française Arte. Elle cumule aujourd'hui plus de 40 millions de vues sur les différentes plateformes et c'est devenu l'un des plus gros succès récents de la chaîne.
Je m'appelle Samuel, j'ai 10 ans et j'ai un problème. Mais bon, j'ai pas trop envie d'en parler. Bon, en fait, mon problème, c'est que Basile a dit à la grande Julie que je l'aimais.
Pour Lola, ce succès montre que les réseaux sociaux sont devenus un véritable laboratoire de création.
Et là, c'est des gens qui te racontent des histoires, qui dessinent ou qui écrivent un storyboard et qui réalisent, et les images sont trop belles. Et ils arrivent à faire du court-métrage, du très très court-métrage sur les réseaux sociaux.
Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes ?
Bluffé par ces créateurs capables de transformer des scènes du quotidien en séries suivies par des milliers, parfois par des millions de personnes, Lola continue de faire défiler son écran et elle me confie. Pourquoi pas un jour se lancer elle-même ?
Ah bah ouais, grave, quand tu vois tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, toutes les manières d'écrire et tout, tu te dis...
Je te connais à peine, mais
Il y a peut-être un endroit pour moi aussi. De toute façon, c'est jamais perdu. Enfin...
Ben oui, pourquoi pas. Y'a quoi sur tes réseaux, c'est fini pour aujourd'hui. À la semaine prochaine.
Y'a quoi sur tes réseaux, la chronique ce dimanche d'Anna Le Serre. La 100% création ce matin se met au parfum de la marque Fragonard, marque qui fête cette année son centenaire. 100% création, Maria Afonso, ce matin avec Eric Fabre, responsable du développement et de la culture des plantes à parfum.
J'ai pas le sens de la création artistique. En revanche, l'agriculture et les choses de la terre me plaisent énormément parce que c'est l'essence même de la vie.
Éric Fabre, responsable du développement et de la culture des plantes à parfum au sein de Fragonard.
On est évidemment très fiers d'être une entreprise familiale. Chaque génération a amené sa part d'audace et de travail. La grande chance de ces 20 dernières années, c'est que Fragonard a été dirigé par des femmes. Avant, c'était que des hommes. Et que ces femmes, avec leur personnalité, leur talent, et leur manière de faire, on nous ont fait passer de la fabrique de parfums à une marque de parfums et on ne peut que les féliciter.
Éric Fabre est né à Marseille. Après ses études en sciences économiques à Aix-en-Provence, il aurait souhaité devenir agriculteur ou diplomate. Mais c'est finalement chez Fragonard qu'il trouve sa voie. Il épouse Françoise Costa, l'une des trois héritières de la maison Fragonard, et s'investit dans le développement de l'entreprise. Il a su conjuguer ses compétences en sciences économiques avec sa passion pour la nature et le savoir-faire artisanal. Éric Fabre investit dans la production locale de plantes à parfum et tente aussi de retrouver des gestes ancestraux transmis de génération en génération.
Ça a vraiment été le détonateur, cette inscription au patrimoine immatériel de l'UNESCO, de ses savoir-faire, parce que dans les années 80, tout le monde abandonnait la terre. Et donc le grand-père, il n'apprenait plus à son petit-fils à greffer. Donc ce sont des choses pas très compliquées, mais des gestes qui se transmettent par l'artisanat. Ça s'apprend sur le terrain et c'est vraiment important dans la globalité de notre entreprise à nous pour donner à nos clients le meilleur de ce qu'on sait faire.
Derrière chaque flacon se cache toute une vie, un savoir-faire transmis avec passion, ce qui, selon Éric Fabre, contribue à la magie de Fragonard.
Le monde du parfum fait rêver le monde entier parce qu'on transmet une émotion incroyable qui force le contact humain. La qualité, l'authenticité, l'histoire qu'on raconte autour du produit est vraiment importante. Et Fragonard est en plein dans ce sujet-là qui plaît au plus grand nombre.
Découvrez tout l'univers d'Éric Fabre et de la maison Fragonard en podcast sur RFI.fr, chronique 100% création, sur RFI Pure Radio et en images sur les réseaux sociaux.
C'était Maria Afonso pour 100% création. Et puis avant le prochain journal, dans un peu plus de 3 minutes sur RFI, c'est en musique que l'on termine cette demi-heure ensemble avec le musicien, chanteur français Blaise Faya, le titre Guanso.
Girl, I get crazy every time we drop a bad song. One song, she a wind up on me like she want some. The girl I really want some. So, me give you that, girl, me give you that. So, me give you that, girl, me give you that. So, me give you that, girl, me give you that. So, when she a bounce on the rhythm, yeah, me can resist. Me no look for your friend or sister. Let me set up, they will call me prime minister. Mister, yeah, Mr. Shatter and minister.
Friend set up, you look on TikTok and Insta.
We drop a song like we drop a bump. We are around the town, yeah, we are around the town. We drop a song like we drop a bomb. We are around the town, yeah, we are around the town. What's up? What's up? What's up, vibe song? What's up, vibe song? What's up? What's up? What's up, vibe song? Limitless, keep an eye on bad song. Girl, I get crazy every time we drop a bad song. One song, she a went up on me like she wants some. The girl I really want some. So, me give you that, girl, me give you that. So, me give you that, girl, me give you that. So, me give you that, girl, me give you that. So, when she a bounce on the rhythm, yeah, me enjoy that. Stuck on your back, physical contact. Yeah, me girl, me love the way you wind up on the world. Don't stop, you the one I only get, I stand up.
Anywhere we go, we give them on the style, but
we drop a song like we drop a bomb. We are around the town, yeah, we are around the town. We drop a song like we drop a bomb. We are around the town, yeah, we are around the town. What's up? What a vibe, limitless, keep an eye on bad set. Can I get crazy every time we drop a bad set? One set, she a win up on me like she wants it.
The girl, I really want some. So, me give you that, girl, me give you that. So, me give you that, girl, me give you that. So, me give you that, girl, me give you that. So,
when she a bounce on the rhythm,
Guanso, le dancehall de Blair.